La science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ces mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Mon appareil.
Voici notre itinéraire.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans cette nouvelle édition de La Science s'amuse, l'émission coproduite par Divergence FM et l'Université de Montpellier qui vous emmène en croisière scientifique dans les laboratoires de l'archipel Muse. Et pour cette nouvelle étape de notre voyage, nous vous invitons à sortir sur le pont pour profiter du grand large, contempler les mouvements des vagues, respirer les embruns et observer les oiseaux marins qui nous accompagnent d'un port à l'autre. Goéland bien sûr, mais aussi mouettes tridactyles, macareux, mergules nains ou encore guillemots. Autant d'espèces que notre invitée du jour connaît bien puisqu'elle vient de publier dans la revue Global Change Biology la plus grande étude jamais entreprise sur la migration des oiseaux marins. Fruit d'une collaboration entre 25 laboratoires de recherche, ce travail s'intéresse au mouvement migratoire de ces oiseaux en lien avec le réchauffement climatique et plus précisément aux bénéfices que pourrait avoir sur les oiseaux marins de l'Atlantique Nord le respect des accords de Paris, autrement dit la limitation du réchauffement climatique à 2 degrés. On en parle donc aujourd'hui avec Manon Clairbeau, chercheuse au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, le CEF. Bonjour Manon.
Bonjour.
Avec moi pour mener cette interview, la rieuse Aline Perriot.
Bonjour.
Mouette rieuse.
Je suis obligée de rire du coup.
En seconde partie d'émission, nous vous emmenons au domaine de Restinclière, où Sandrine Baudin et Christelle Tibéry de Géosciences Montpellier nous font découvrir un sismomètre. La science s'amuse, vous avez la carte, on embarque. Donc Manon, pour réaliser cette étude, vous avez suivi 5 espèces d'oiseaux. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquelles et pourquoi celles-ci ?
Oui, donc comme vous l'aviez dit, donc il y a le mergule nain, la mouette tridactyle, le macareux moine et 2 espèces de guillemots, donc le guillemot de Troil et le guillemot de Brunic. Et donc ces 5 espèces-là, nous on les a étudiées déjà parce qu'elles sont très nombreuses en Atlantique Nord, puisqu'elles représentent donc plus de 75% des espèces qui nichent en termes de nombre. Donc ça en faisait un bon modèle d'étude et puis surtout elles sont assez étudiées, donc on a pu récupérer quand même pas mal d'informations et aller plus loin dans les recherches qui sont faites sur ces espèces.
Alors, dans l'introduction, j'ai dit que c'était la plus grande étude jamais réalisée donc, sur les oiseaux de l'Atlantique Nord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Alors déjà, parce que comme vous l'avez dit, elle représente un énorme effort collaboratif. Donc, il y a énormément de gens qui ont collecté des données de localisation de ces espèces et qui ont accepté de fournir cet effort commun en me laissant utiliser ces données-là. Donc déjà, par l'emprise qu'elle a en termes de nombre de données, c'est déjà une très, très grosse étude. Et puis l'emprise spatiale, puisqu'on là, on ne s'intéresse pas seulement à une espèce, mais à 5. Et on ne s'intéresse pas qu'à un petit endroit du globe, on s'intéresse à l'ensemble de l'Atlantique Nord. Donc ça en faisait quelque chose d'assez important pour la recherche sur les oiseaux marins dans ce domaine-là en tout cas.
Et justement du coup, est-ce que vous pourriez nous détailler un peu le protocole de cette étude ? Comment est-ce que vous avez fait pour suivre tous ces oiseaux ?
Donc en fait, les oiseaux marins, donc, ils nichent à terre pendant une période de l'année, et puis le reste du temps est passé en mer, souvent assez loin au large, là où on ne peut pas nécessairement suivre ces espèces. Et donc nous, dans cette étude-là, on a utilisé donc de petites balises qui s'appellent des GLS, pour Global Location Sensor. Et en fait, donc, ces toutes petites balises, elles pèsent moins d'un gramme, enfin jusqu'à un gramme, ce qui nous permet d'équiper donc des espèces qui pèsent pas grand-chose. Par exemple, un mergule nain, c'est 150 grammes, c'est le poids d'une grosse pomme de terre. Donc vous vous rendez compte qu'on ne peut pas mettre un gros GPS sur un si petit oiseau. Donc ces balises, les GLS, sont petites, on les accroche à la patte de l'oiseau, et si elles sont si petites, c'est qu'elles ne nécessitent pas beaucoup de batterie pour stocker la donnée qu'elles enregistrent, à savoir juste des niveaux de lumière. Et donc ces niveaux de lumière, donc on fait en gros la mesure jour-nuit, donc en fait on obtient une courbe assez sinusoïdale, et ce qui nous permet en fait d'obtenir la durée du jour, ce qui est un proxy de la latitude, et l'heure du zénith, ce qui lui est un proxy de la longitude. Et donc en fait, grâce à ça, on obtient pour chaque individu de chaque espèce, deux localisations par jour grâce à cette petite balise.
Et vous récupérez les données en direct ou vous avez besoin de récupérer la balise après?
Et non, malheureusement et heureusement. C'est-à-dire que vu que les oiseaux, de toute façon, ils ne sont à terre que quelques mois par an, on est obligé d'attendre qu'ils reviennent à terre pour récupérer la balise. Donc l'intérêt de cette toute petite balise, c'est qu'elle peut enregistrer un an, voire plusieurs années de données en étant toute petite et en nécessitant pas beaucoup de batterie pour stocker tout ça.
Combien d'individus vous avez équipés à peu près ?
Plus de 1500.
Ah oui, quand même. Alors, on l'a dit aussi, vous vous êtes intéressé plus particulièrement à l'impact du changement climatique sur leur migration hivernale. Donc, pour qu'on comprenne un petit peu de quoi on va parler, est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer le cycle de vie d'un oiseau marin, justement ?
Donc là, en plus, on ne s'intéresse pas à n'importe quel oiseau marin, on s'intéresse à ceux qui nichent en Arctique. Donc, vous imaginez bien que l'Arctique, l'hiver, concrètement, vaut mieux pas rester là-haut. Hein, il fait un peu froid. Donc, en fait, les oiseaux marins, ils profitent de ce qui se passe l'été en Arctique, c'est-à-dire qu'il y a une explosion de vie, en fait, l'été pendant cette période de l'année. Donc eux, ils se servent de toute cette nourriture disponible et puis de ces habitats pour élever leurs jeunes et leurs petits. Donc là, ils sont à terre, ils se reproduisent, admettons, entre juin et août. Et puis quand les conditions commencent à se dégrader, qu'il commence à y avoir moins de nourriture, en fait, donc ils partent, donc ils migrent. Donc ils vont en général plus vers le sud pour bénéficier de conditions qui sont plus favorables. Et donc là, soit ils vont rester au même endroit tout l'hiver, soit ils vont bouger un petit peu de spot en spot pendant cette période-là, donc qui va durer donc en gros du mois de septembre au mois de février-mars. Et puis d'un coup, ils vont refaire le chemin inverse pour rejoindre leur site de reproduction, se reproduire et élever leurs jeunes, et ainsi de suite.
Et vous dites aussi dans l'étude que ça reste un phénomène qui est assez mal connu. Pourquoi finalement il y a peu de données alors que c'est des oiseaux qu'on imagine assez étudiés ?
En fait, effectivement, ils sont très étudiés pendant justement la période de reproduction, tout simplement parce qu'ils sont à terre, donc on peut aller physiquement les voir, les attraper, les manipuler, les mesurer, faire des prises de sang, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Le problème, c'est que l'hiver, s'ils sont en pleine mer, déjà, il faut savoir où est-ce qu'ils sont. On ne les suit pas en bateau, concrètement, derrière eux. Donc, ce n'est pas évident. Donc, c'est pour ça qu'on met des balises. Et donc ça concerne un grand nombre de populations, effectivement. Et chaque population peut avoir des stratégies migratoires différentes. Donc, vous imaginez bien que ça multiplie le nombre de stratégies et que ça reste un domaine qui reste un peu à étudier quand même.
Très bien. Donc, pour faire vos prédictions sur l'impact du changement climatique sur ces oiseaux marins, vous vous êtes basé sur deux scénarios, le RCP 8,5 et le RCP 2,6. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ça correspond ?
Donc, en fait, le GIEC, le groupe de scientifiques qui étudie le changement climatique, pour prédire ce qui va se passer plus tard, ils sont obligés de formuler des hypothèses, donc des scénarios. Et donc, ces scénarios, comme je l'ai dit, le RCP 2,6 et le RCP 8,5, vous voyez qu'il y a deux chiffres à la fin du RCP, 2,6 et 8,5, et ça équivaut en fait au changement radiatif qu'il va y avoir sur notre planète, à l'énergie que notre planète va recevoir en plus dans le futur. Et en fait, donc 2,6, ce scénario-là, pourquoi on l'a choisi ? C'est parce que sous ce scénario, si on le respecte, on atteint en fait finalement les objectifs de l'accord de Paris, à savoir de rester à un niveau de réchauffement inférieur à 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel. Bon, ça, c'est un scénario qui est quand même contraignant. C'est-à-dire que dès maintenant, l'humanité tout entière fait en sorte de vraiment réduire ses émissions de gaz à effet de serre pour atteindre ces scénarios, ces objectifs. Le 8,5, c'est tout l'inverse. Donc, c'est-à-dire qu'on ne fait rien et on attend de voir ce qui se passe. Et ça induit nécessairement donc, des changements forts de la température. Et là, on dépasserait les 2 degrés selon les modèles climatiques entre 2040 et 2050. On les dépasserait largement pour arriver en 2100 à des hausses entre 4 et 6 degrés.
Et justement, un des objectifs de cette étude, c'était d'identifier les zones océaniques essentielles à la survie des oiseaux. Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui caractérise ces zones, en quoi elles sont essentielles pour les oiseaux ?
Donc nous, on s'est intéressé à la période d'hivernage, donc c'est-à-dire quand ils ont quitté leur lieu de reproduction, à savoir où est-ce qu'ils allaient en mer pendant l'hiver. Et comme on l'a dit, donc c'est des zones qui étaient identifiées pour un certain nombre d'espèces. Et ces zones-là, elles sont très importantes déjà parce que ce qui se passe l'hiver peut impacter ce qui se passe l'été. C'est-à-dire que si un oiseau il passe un hiver catastrophique, il n'a plus les réserves suffisantes pour avoir une reproduction efficace, élever ses jeunes de façon satisfaisante. Donc ça impacte nécessairement ce qui se passe après. Et donc nous, on s'était demandé, ok, mais donc ils migrent. Pourquoi ils choisissent un endroit plutôt qu'un autre ? Donc en fait, on les a localisés, comme je vous le disais, avec les balises. Et une fois qu'on savait où est-ce qu'ils étaient, on a pu comparer les caractéristiques environnementales de là où est-ce qu'ils étaient avec les caractéristiques environnementales de là où ils n'étaient pas. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les oiseaux marins, ils avaient tendance à choisir des zones qui leur étaient énergétiquement favorables. Pourquoi aller dépenser plus d'énergie justement à rester dans des zones très froides, par exemple, que plutôt que d'aller se la couler d'eau aux Antilles, admettons. Donc ils choisissent des zones qui leur sont favorables d'un point de vue énergétique. Cependant, c'est bien beau de dépenser peu d'énergie, encore faut-il qu'il y ait à manger. Donc en fait, ils trouvent en fait un compromis entre une dépense énergétique qui est favorable et le fait qu'il y ait quand même suffisamment de ressources alimentaires pour maintenir leur survie et puis constituer des réserves pour la migration à venir et la reproduction.
Donc, d'après vos prédictions, vous estimez justement donc, que ces zones particulières vont subir un glissement géographique vers le nord. Comment vous expliquez alors ce glissement géographique ?
Donc, si on repart du fait que les oiseaux donc, choisissent des zones qui leur sont favorables d'un point de vue de l'énergétique, si les températures augmentent, la dépense énergétique plus proche des pôles, puisque la température a augmenté, va être moins défavorable. Donc en fait, les zones qui étaient thermiquement jusque-là inaccessibles pour les oiseaux marins vont le devenir. Et en fait, ce shift vers le nord, donc comme je le disais, il faut quand même que les proies suivent. Et les proies, elles sont également liées à des phénomènes climatiques, donc par exemple la température de l'eau pour les poissons, par exemple, ou la quantité de glace. Et en fait, effectivement, donc on a certaines proies qui, elles aussi, vont migrer vers le nord, potentiellement. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que potentiellement, les oiseaux marins vont pouvoir traquer finalement le changement climatique en traquant le changement de température et donc en se déplaçant vers le nord, en déplaçant, pardon, leur zone d'hivernage vers le nord. Ça reste une hypothèse, parce qu'il faut savoir que donc, les oiseaux marins ils peuvent soit avoir cette solution-là, soit ils peuvent rester là où ils sont maintenant, mais ça voudrait dire qu'ils, par contre, ils changent complètement de mode d'alimentation, de comportement ou même de physiologie. Donc c'était pas la stratégie que nous, on pensait la plus probable. Et donc nous, ce qu'on estime, c'est qu'ils vont sans doute se déplacer vers le nord.
Et parmi toutes les espèces que vous avez étudiées, est-ce qu'ils sont tous affectés de la même manière pour le réchauffement climatique ou est-ce qu'il y en a qui le supportent mieux ou moins bien ?
Donc nous, ce qu'on montre dans l'étude, c'est que le déplacement vers le nord concerne les 5 espèces. Par contre, il y a une petite différence entre les 5, c'est-à-dire que la mouette tridactyle et le mergulin, nous, on estime que en fait, la distribution du zooplancton, donc, qui est leur proie principale, va shifter vers le nord de façon moindre, c'est-à-dire que la limite sud de la répartition va monter vers le nord de façon plus rapide que la limite nord, ce qui fait qu'en fait l'aire de répartition de ces espèces-là, le mergule et la mouette tridactyle, va également diminuer. C'est-à-dire que même si elle se déplace vers le nord, elle va devenir plus petite que l'actuelle. Donc elle serait plus vulnérable finalement au changement climatique, si on ne respecte pas les accords de Paris. A l'inverse, les deux espèces de guillemots, elles ont la limite nord de leur domaine de répartition qui va shifter vers le nord plus vite que la limite sud, et du coup on aurait un domaine une aire de répartition hivernale qui va, elle, augmenter avec le changement climatique, d'autant plus si on ne respecte pas l'accord de Paris.
Dans les communiqués de presse donc, que vous avez émis, vous avez choisi de formuler votre étude d'une façon assez particulière, c'est-à-dire que vous avez mis en avant les bénéfices pour les oiseaux marins du respect donc, des accords de Paris, et vous n'avez pas parlé donc, de l'impact négatif qu'aurait sur les oiseaux marins le non-respect des accords de Paris. Pourquoi vous avez choisi cette formulation positive ?
En fait, il y a déjà plusieurs études, donc on sait finalement que le changement climatique va avoir dans un certain nombre de cas des impacts parfois dramatiques, et d'un point de vue citoyen, on avait l'impression que les gens seraient plus sensibles à la démarche de dire « si on fait les choses bien », Ça paye, en fait, finalement. Voilà ce qui va se passer. Donc, c'est pour ça qu'on avait choisi de le tourner de façon plus positive.
Et justement, déjà, on sait qu'aujourd'hui, la communauté mondiale des oiseaux marins, elle a déjà décliné de plus de 50% en un demi-siècle. Cette baisse-là, elle est directement liée au réchauffement climatique ou il y a d'autres facteurs qui peuvent l'expliquer ?
Malheureusement, il y a quand même beaucoup d'autres facteurs en lien avec la diminution donc, des populations d'oiseaux marins, notamment la surpêche. Donc, en fait, il y a une compétition forte pour leur proie, en fait, entre l'homme et puis les différentes espèces. Il y a des phénomènes dont ce qu'on appelle de prise accessoire. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, les oiseaux vont être pris dans les filets de pêche. On a également des problèmes liés à la pollution plastique ou à d'autres métaux lourds. On a également aussi, donc là c'est tout ce qui se passait en mer, mais on a également des problèmes sur ce qui se passe à terre, par exemple avec des espèces exotiques envahissantes, tout simplement qui viennent soit prendre leur place dans la niche écologique de ces espèces-là, ou même qui les prédatent. C'est par exemple le cas des rats, des souris, des chats qu'on trouve sur certaines îles et qui déciment complètement certaines colonies. Donc ça fait partie des nombreux maux qui pèsent sur les populations d'oiseaux marins.
Et vous précisez aussi que ces oiseaux marins, ce sont un peu les sentinelles environnementales des milieux marins. Pourquoi vous affirmez qu'ils ont cette fonction ?
En fait, nous, on les considère les scientifiques les considèrent comme des sentinelles parce que donc ils surplombent l'ensemble d'une chaîne alimentaire. Et en tant que donc prédateurs supérieurs, ils intègrent finalement l'information qui est contenue dans l'ensemble de la chaîne. C'est-à-dire que juste en regardant un oiseau marin, et les populations d'oiseaux marins, on peut arriver à conclure l'état de cette chaîne alimentaire. Donc c'est pour ça qu'on les appelle les sentinelles. Par exemple, si une population de mouettes tridactyles chute depuis les 20 dernières années, il y a de fortes chances que ça soit corrélé avec son environnement et par exemple le nombre de poissons qu'on trouve par exemple autour de cette colonie pendant l'été.
Et du coup, est-ce que les résultats de cette étude, de ce que vous avez mis en avant, de cette étude la plus grande qui a été menée, elle vous amène à faire concrètement des recommandations pour mieux protéger les oiseaux marins en l'occurrence ?
En étudiant déjà là où est-ce qu'ils sont pendant l'hiver, on a pu mettre en évidence qu'il y avait des zones qui étaient importantes pour eux, qui n'étaient pas encore protégées. Donc déjà, dans l'actuel, on pourrait mettre en place donc, des aires marines protégées marines pour mieux protéger les oiseaux pendant cette période-là. Et le second constat que nous on fait, donc, c'est de dire, attention, la répartition hivernale des oiseaux marins dans le futur, elle est susceptible de changer, donc de se déplacer vers le nord. Est-ce qu'on ne pourrait pas déjà mettre en place un réseau d'aires marines protégées qui tient compte en fait, de ces glissements de distribution ?
Et vous dites qu'elles ne sont pas assez protégées pour l'instant. Est-ce que vous savez évaluer la proportion d'air nécessaire pour eux qui est protégée et celle qui ne l'est pas encore et qui devrait l'être ?
Alors, ce n'était pas le but, nous, de notre étude. Mais, par exemple, on a identifié des zones, par exemple, au large de Terre-Neuve ou encore en mer des Barents, qui, pour le moment, ne sont pas protégées et qui sont des lieux importants pour l'hivernage de la communauté d'oiseaux marins d'Atlantique Nord. Et donc, on aimerait voir plus de protection dans ces zones-là.
La méthode que vous avez développée dans cette étude, est-ce qu'elle est transposable à d'autres animaux, par exemple ?
Alors oui, c'est des modèles mathématiques qui sont déjà utilisés pour certains dans d'autres cas d'études, avec d'autres espèces, dans d'autres milieux. Et nous, on voulait étendre finalement certains de ces modèles aux oiseaux marins, certes, mais proposer une méthode qui soit applicable à d'autres oiseaux, tout simplement, ou même à d'autres animaux terrestres.
Très bien. Manon Clairbout, un grand merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions. C'était très clair, c'était très intéressant.
Merci
beaucoup.
Il y a quelqu'un qui m'entend ?
Oui, qu'est-ce que vous voyez ?
Un iceberg droit devant !
Et on passe maintenant à la chronique en salle des machines, où avec Aline, nous nous sommes intéressés au mouvement de la Terre.
Oui, en effet, depuis cet été, le domaine de Restinclière accueille un sismomètre pour le réseau sismologique et géodésique français, dans le cadre d'un accord avec l'Observatoire des sciences de l'univers, l'OREM. Nous suivons Sandrine Baudin, assistante ingénieure en sismologie et géodésie, et Christelle Tibéry, chercheuse du laboratoire Géosciences Montpellier, à la découverte de ce capteur qui enregistre le mouvement des sols.
Given earthquake its maximum effort.
Là, on est sur le domaine de Restinclière. Sandrine Baudin, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu pourquoi on est là avec un sismomètre ?
On se situe à quelques kilomètres au nord de Montpellier. Et donc, nous avons choisi ce site pour l'installation d'une station sismologique permanente qui est intégrée au réseau national de sismologie et géodésie français. Et il a été installé et mis en fonctionnement en octobre 2020.
Il y a une grande armoire.
Oui, alors c'est l'armoire de commande qui gère l'acquisition et le stockage des données ainsi que le transfert des données de la station sismologique qui est, elle, enterrée quelques mètres plus loin dans un puits sismique dans une profondeur de 6 mètres.
Le puits, c'est ce qu'on voit ici ?
C'est une buse de béton de diamètre d'un mètre, recouverte d'un couvercle en acier. Et donc, à l'intérieur, en fait, tout ça est fait pour protéger le puits sismique qui, lui, a un diamètre de 30 cm. Et le sismomètre, ben, c'est un petit peu comme un suppositoire hein, de 25 cm de diamètre que l'on vient faire coulisser jusqu'à la fin du tubage, en fait. Il est recouvert de sable pour justement atténuer ce bruit de fond anthropique, c'est-à-dire toutes les activités humaines au maximum.
Et à quoi il ressemble alors ?
C'est un cylindre qui fait à peu près 40 cm de haut sur 25 cm de diamètre, avec un gros connecteur pour passer le câble de données, en fait, et le câble remonte le long du puits sismique.
Mais qu'est-ce qui fait que ce cylindre, justement, enregistre tous les mouvements du sol ?
Alors, les capteurs sensibles, il y en a trois, en fait, qui sont dirigés selon l'axe nord-sud, est-ouest, et un capteur qui est en Z. Et en fait, quand les ondes vont se déplacer, ça va faire ça va induire de l'électricité et ça va faire déplacer des éléments sensibles à l'intérieur du sismomètre. Et c'est ce déplacement d'éléments sensibles qui est converti en fait en microvolts. Alors, le sismomètre mesure le déplacement des ondes sismologiques. Donc, on a la mesure du déplacement, la direction, s'il y a un événement sismique. Cette station sismologique, elle fait partie du réseau national français qui est composé de 172 stations. Et donc, effectivement, cet appareil mesure tout événement sismique. Donc, ça peut être des séismes locaux, mais aussi on enregistre des séismes lointains, au Japon ou autre.
On essaye souvent de trouver un environnement très calme pour les instruments, afin justement d'avoir le maximum d'informations sur le mouvement du sol. Christelle Tibéry, directrice de recherche au CNRS. Des séismes qui se produisent au Japon ou en Amérique du Sud, on ne peut pas les sentir, nous, parce que c'est des déplacements qui sont extrêmement faibles. Et ces instruments doivent être mis dans des endroits très très calmes pour pouvoir justement faire ressortir ce signal sur le vent, les personnes qui marchent à côté, etc. Donc c'est pour ça qu'on choisit des endroits toujours très 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 calme et assez éloigné de toute problématique anthropique, en fait.
Et du coup, nous, quand on marche, par exemple, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est perçu par le sismomètre ?
Oui, on va nous voir aujourd'hui sur le signal. On va voir qu'on était là. Et s'il y a malheureusement un séisme qui se produit au Japon, on ne pourra pas l'enregistrer, on ne le verra pas. On aura parasité le signal.
Et du coup, jusqu'à quelle distance ? Parce que là, je vois par exemple, à une centaine de mètres de nous, il y a des gens qui se promènent. Le sismomètre, il perçoit aussi ces parasites-là ?
Il va les enregistrer, en fait, mais chacun de ces phénomènes va avoir une signature sur l'enregistrement différente. En fait, on va avoir des fréquences qui sont différentes. Donc, les vagues de la mer Méditerranée, on va pouvoir les enregistrer à une certaine fréquence qui ne sera pas la même que les personnes qui marchent et qui ne sera pas non plus la même que le séisme. On enregistre plein de choses. Donc, on enregistre quand il y a beaucoup de vent. Le vent fait vibrer les arbres aux alentours et les racines et on va le retrouver dans le signal.
C'est grâce aux fréquences que vous pouvez savoir ce qui va venir du Japon ou ce qui va venir des vagues de la Méditerranée, justement ?
Grâce aux fréquences et notamment grâce au réseau, parce qu'un sismomètre seul ne peut pas identifier la direction vraiment de manière très précise. Et donc, on a besoin de tout ce réseau. Le réseau est constitué de 172 stations, mais qui sont répartis entre chaque station, il y a 60 à 80 km. Donc quand il se produit un événement ou la houle ou un événement sismique, en fait, c'est l'ensemble des stations qui réagissent, mais qui vont réagir avec un timing différent. Ici, par exemple, si on a un événement sismique, c'est la station de Restinclière qui va la capter en premier, et puis quelques secondes après, quelques minutes après, on va avoir ce mouvement qui va traverser le territoire, en fait. Donc l'important, c'est aussi d'avoir un réseau pour pouvoir identifier au mieux les différents événements.
Si vous voulez voir justement à quoi ça peut ressembler et quel type d'événement on peut enregistrer sur les différents sites de Resif, on peut aller sur le site www.resif.fr sur lequel, en fait, on a accès à l'ensemble des données de façon publique du réseau.
Dans l'idée qu'on se fait d'un sismomètre dans les films qu'on voit, il y a toujours un tracé avec une aiguille qui bouge énormément quand il y a un tremblement de terre. Et là, on voit rien de tel. On voit beaucoup de fils. Ça ressemble un peu à un ordinateur, en fait.
Ou un compteur électrique.
C'est vrai. Vous pourriez nous expliquer à quoi ça sert, tout ça ?
Bien, en fait, nous avons un numériseur qui numérise les données analogiques qui sortent. Les données analogiques sortent du sismomètre. Elles sont ensuite transformées dans cet appareil-là. Donc, il numérise l'information. Et ensuite, on a des transferts, du transfert de données par ADSL, tout simplement. Et ce transfert de données vient rentrer dans la base de données Resif actuellement qui est à Strasbourg. Donc, on ne voit pas de sismogramme, mais on peut sortir les sismogrammes et les voir sur nos ordinateurs.
Et vous pourriez nous expliquer la différence entre un sismomètre et un sismographe ?
Alors, le sismomètre, c'est ce qui va vraiment mesurer, c'est comme un thermomètre, c'est l'instrument qui va permettre de mesurer le déplacement du sol. Le sismographe, parle plutôt de sismogrammes maintenant, c'est vraiment la donnée, c'est l'enregistrement, c'est les petites courbes que l'on voit. Donc avant, on appelait ça graphe parce que c'était graphique, c'était analogique, on le voyait sur du papier. Maintenant, on appelle ça sismogramme parce que c'est bien tout souvent numérique et que l'on voit sur notre ordinateur.
Et là, dans la région de Montpellier, on n'est pas dans une région où il y a une activité sismique forte ou ça peut arriver qu'il y ait quand même des micro-séismes qu'on ne ressente pas ?
Alors, des micro-séismes, il y en a tout le temps. Heureusement, on ne les ressent pas tous, hein, mais vous avez dû entendre parler du séisme du Teil récemment. Donc, ce n'est pas vraiment à Montpellier, mais c'est dans la région. Donc oui, dans la région, il y a quelques failles qui peuvent parfois produire... Donc, ce n'est pas des gros séismes. C'est la France a une sismicité qu'on qualifie de modérée. Elle est plutôt concentrée dans les Alpes et dans les Pyrénées, avec un petit peu sur le pourtour de la Bretagne. Donc, c'est des zones qu'on a bien identifiées. L'instrument qu'on a là, ce n'est pas vraiment pour enregistrer la sismicité qu'il pourrait y avoir dans la région. C'est vraiment dans un cadre beaucoup plus général. Donc, c'est pour caractériser les séismes lointains, mais on s'en sert aussi pour caractériser le sous-sol. C'est-à-dire qu'en utilisant les ondes des séismes, en fait, on arrive à faire un peu comme une échographie. On arrive à avoir une information sur la structure, les différentes couches qu'il y a à l'intérieur de la Terre.
Ça va exister pendant combien de temps, cette station ?
Une station du réseau national est construite et installée pour durer longtemps, très longtemps. Donc, ça sera pour les chercheurs d'aujourd'hui et les chercheurs de demain aussi. Donc, on est sur 10, 20, 30 ans et plus, si c'est possible.
They indicate another pre-shock, probably before noon today.
And if it happens?
Then the big one follows in 48 hours.
La Science s'amuse, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Bruno Bertrand pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, amusez-vous bien.
La science est une démarche de connaissance comme les autres.
La Terre va entendre ses mots.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Une sorte de relativisme absolu.
La science est un discours.
C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
On appelle prétentieusement une théorie du tout.
Inversion complète de la charge des protons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
On a pareil.
Voici notre itinéraire.
Au revoir, la croisière vous a plu ?
Oh oui, beaucoup, c'était merveilleux.